Veuillez écouter, chers frères et sœurs, la lecture de la Bible. Tout d'abord, et ces textes seront tous centrés sur le thème de la grâce, au psaume 103, dont nous avons chanté quelques strophes tout à l'heure, les versets 8 à 13. L'Éternel est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel, au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. L'Éternel aime ses fidèles comme le Père aime ses enfants. Et puis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, c'est versets 43 et 45 que nous entendions déjà dimanche dernier, ces paroles de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil, aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Enfin, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a même pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout? Avec son Fils, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort. Comme le déclare la Bible, à cause de toi nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, on nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique numéro 170, les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique numéro 170. Ô Éternel, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu nous aimes. Chers frères et sœurs, dans une petite série de trois prédications consacrées à une certaine interpellation adressée à notre protestantisme, j'aimerais centrer la prédication de ce matin, comme cela a été annoncé, sur la question de la grâce, de ce fameux sola gratia de la Réforme. Nous avons été sauvés par la seule grâce de Dieu, et placer notre réflexion sous l'égide de cette parole de Jésus d'après l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 45. Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent mal comme sur ceux qui agissent bien. Pour introduire cette prédication, je vous lirai quelques lignes. Certains en reconnaîtront probablement l'auteur, mais je ne le dirai qu'après les avoir lues. Les épîtres de saint Paul sont bien plus un évangile que Matthieu, Marc et Luc, car ces derniers ne décrivent pas beaucoup plus que l'histoire des œuvres et des signes miraculeux du Christ. Mais la grâce que nous avons par Christ, personne ne la décrit aussi bien que saint Paul, spécialement dans l'Épître aux Romains. Eh bien, ces mots sont d'autant plus étonnants quand nous savons qu'ils sont de Luther. Ils traduisent son expérience de moine au XVIe siècle, poursuivi par l'idée de faire son salut, sentant que cela, il n'y parviendra jamais, accumulant les œuvres les plus incroyables et découvrant tout à coup, dans ses lectures de la Bible, l'Épître aux Romains, dans lequel l'apôtre Paul proclame que le salut nous est donné par la grâce de Dieu et que nous n'y pouvons rien. Il y a dans ce texte, vous l'avez perçu aussi, établi par Luther, une certaine hiérarchie entre les passages ou les livres de la Bible, selon qu'ils insistent ou non sur le message de la grâce. C'est intéressant parce que cette manière de hiérarchiser les textes a presque toujours empêché les luthériens d'être fondamentalistes, alors que les réformés le sont si souvent. Luther allait jusqu'à espérer qu'on supprimerait l'épître de Jacques du Nouveau Testament, dont il estimait qu'elle insistait trop sur les œuvres et pas assez sur la grâce. Oui, il y a une alliance entre le protestantisme et Paul. D'ailleurs, ne peut-on pas dire que cet épître aux Romains a joué un rôle si important dans l'histoire du protestantisme qu'elle est comme un cinquième évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean et l'épître aux Romains que d'ailleurs vous avez entendu, Luther place avant les évangiles. La grâce. Elle désigne une compassion et un amour universel et inconditionnel de Dieu qui, comme le dit Jésus d'après Matthieu, fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il y a là une parole forte et d'une puissance symbolique rayonnante. Mais la grâce n'est pas seulement universelle, inconditionnelle, elle est surtout première. Elle désigne l'amour premier de Dieu pour nous. Et comme je l'ai souvent rappelé, quand nous baptisons un petit enfant, nous venons lui dire, petit enfant, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu t'aime, le premier, cela ne dépend pas de toi, ni de la vie que tu auras. La grâce, c'est l'amour de Dieu dans sa précédence et qui fait que nous aimons Dieu non pas pour être aimés de Dieu, Dieu ou que nous faisons un peu de bien, non pas seulement pour être aimés de Dieu, mais bien entendu parce que nous le sommes. J'aimais à faire écrire dans la Bible, dans leur Bible, aux catéchumènes qui ont été les miens, à la première page, ce verset de l'épître de Jean, la première, au chapitre 4, « Quant à nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Eh bien, nous voyons qu'une religion placée sous le signe de la grâce est, pour le dire en termes contemporains, actuels, une religion dont la pratique est désintéressée. Je ne cherche pas par mon christianisme et la pratique de cette religion à obtenir quoi que ce soit de Dieu, à mériter quoi que ce soit de lui. Au cœur de ma foi, j'exprime simplement une reconnaissance, un remerciement, et partout, dans toutes les confessions chrétiennes, dans toutes les religions où l'on vit sa religion ainsi, c'est-à-dire de manière désintéressée, il y a une solidarité entre ces croyants-là et comme un geste qui rejoint celui du protestantisme. On peut d'ailleurs se demander si l'athée, qui ne croit ni en Dieu ni à diable, ni au ciel, ni à l'enfer, ni à quelconque mérite, et qui agit sur cette terre pour les autres de manière totalement désintéressée, n'est pas parfois plus près de l'évangile de la grâce que tant de croyants qui pratiquent leur religion pour obtenir quelque chose de Dieu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les croyants ont été tellement impressionnés par ce roman d'Albert Camus en 1947, La Peste, dont le héros, le docteur Rieux, se dévouait sans compter pour ses concitoyens. Il était, ce docteur, totalement incroyant. Mais ce que je viens de dire ne doit pas signifier pour nous que les œuvres, que nos actions, que tout cela est insignifiant. Tuons, mentons, volons, peu importe, puisque Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il y a dans l'évangile de Jean au chapitre 13, cette parole de Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour. Et non pas à des dogmes, à des croyances, à des credos, à des doctrines. L'amour, qui n'est pas du tout le monopole des chrétiens, mais sans lequel le christianisme ne serait pas. Le christianisme désigne dans notre vie chrétienne l'essentiel. Mais voilà, cet essentiel ne nous sauve pas. Tel est un des paradoxes parfois difficiles à saisir du protestantisme. On a souvent identifié, c'était la manière de penser et d'écrire au XVIe siècle, le sola gratia, par la seule grâce de Dieu, ou sola fide, par la foi seule. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette expression « par la foi seule » puisse être correctement comprise. Je pense qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Parce que la majorité de ceux qui l'entendent pensent que cela veut dire que nous sommes sauvés parce que nous souscrivons à un credo orthodoxe, conforme, en bonne et due forme, parce que nous pourrions le signer. La foi est le plus souvent en effet identifiée à des croyances. Nous ne sommes pas plus sauvés par les œuvres de la piété, par celles de la charité, que par des croyances, sinon nous ferions de la foi une œuvre. Il y a souvent dans les traités catholiques de doctrine chrétienne, les traités de dogmatique, comme on les appelle, un chapitre ou des passages qui redisent très exactement, quasiment, ce que je viens de rappeler. Alors on nous dira où est la différence entre cette conception catholique et la conception protestante. Eh bien, dans ces traités catholiques, il y a un chapitre parmi d'autres, mais qui ne les influence pas véritablement, ces autres chapitres. Alors que chez les protestants, le chapitre sur la grâce est le premier chapitre, l'introduction dont tout le reste dépend et découle et qui change tout le reste, qui change notre conception de l'Église, qui n'est pas une assemblée d'évêques qui, tout compte fait, est dans une Église jugée, elle aussi, quasiment infaillible. Ça change la conception du culte qui n'est pas fait pour obtenir le pardon de Dieu, ni même pour faire plaisir à Dieu. Ça change la conception surtout du sacrement où un être humain ne peut pas faire surgir la présence du Dieu de Jésus-Christ dans le sacrement, ni obtenir par un geste magique à l'heure du baptême l'effacement d'un péché originel. Voyez-vous, il y a quelques années, les luthériens et les catholiques ont signé au plus haut échelon un accord commun sur la question de la grâce. Mais il était bien précisé pour ceux qui ont lu cet accord que nous ne tirions pas nécessairement les mêmes conséquences de cette affirmation de la grâce. D'où le fait que quelques jours après cette signature, le pape lui-même promulguait des indulgences, ce qui semblait diamétralement opposé à l'affirmation ainsi comprise de la grâce, ces indulgences qui d'ailleurs furent à l'origine du geste réformateur de Luther au XVIe siècle. Alors, dans cette première étape où j'ai essayé de faire quelques rappels fondamentaux au sujet de la grâce, j'aimerais dire encore simplement qu'il ne faut pas trop rapidement, comme on le fait parfois, identifier l'amour et la grâce. La grâce est une certaine forme de l'amour de Dieu. De cet amour qui, comme le dit Jésus, fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Rappelez-vous la parabole de l'enfant prodigue. Le fils cadet est parti. Il a mené une vie dissolue. Quand il se trouve dans la misère, il revient à la maison du père qui l'accueille. On fait une fête en son honneur, on tue le veau gras. Et le frère aîné qui revient des champs est furieux, car on n'a jamais fait la moindre fête pour lui, qui a toujours été là, qui a toujours travaillé, qui a toujours été présent et qui a toujours été méritant. Et la parabole des ouvriers de la dernière heure, Un propriétaire d'une vigne au moment des vendanges a besoin d'ouvriers. Il va les chercher sur la place publique où il y a des chômeurs qui attendent qu'on les engage et le propriétaire en engage au début de la matinée, dans l'après-midi et puis vient le soir et le moment de les payer. Et il donne à tous la même somme. Naturellement, les ouvriers qui ont travaillé péniblement sous le soleil de plomb toute la journée sont révoltés. Ils estiment qu'ils sont victimes d'une injustice. Et le propriétaire leur dit, comme Dieu nous le dit à nous-mêmes, « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Eh bien oui. Je crois que beaucoup de gens voient d'un mauvais œil que Dieu soit bon ainsi. C'est-à-dire, par une espèce de grâce qui leur paraît être une injustice, au point qu'ils aiment expédier une bonne partie de l'humanité en enfer, avec un sentiment conscient ou inconscient, de vengeance. Mais voilà, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et la grâce est tout orientée vers un salut universel. Pour cette humanité dont le pasteur Wagner aimait à répéter qu'elle est pour Dieu une humanité indivise. Mais, et ce sera une deuxième étape de cette réflexion sur la grâce, est-ce que ce message reste vraiment actuel? Il y a quelques années a eu lieu à Helsinki une conférence de l'Assemblée plénière de la Fédération luthérienne mondiale, luthérienne, et on y déclara ceci. L'homme d'aujourd'hui ne pose plus la question « Comment trouver un Dieu de grâce ?» Sa question est plus radicale, plus élémentaire. Il pose la question de Dieu lui-même. Où est Dieu ? Il ne souffre pas de la colère divine, mais du sentiment de son absence, non du péché, mais de l'insignifiance de sa propre existence. Il ne cherche pas un Dieu qui fait grâce. Mais il se demande si Dieu existe réellement. Et c'est parce que cela est si vrai que j'ai tenu à faire précéder la prédication de ce jour, la dernière fois que j'ai prêché ici même, d'un sermon consacré à l'absence de Dieu. C'est bien notre question, est-ce que Dieu n'est pas absent de nos vies, de nos existences, de notre monde, de l'histoire ? Quand nous voyons le spectacle scandaleux des souffrances injustes. Nous ne sommes plus au siècle de Luther, et même si l'affirmation de la grâce reste le socle de la spiritualité et de la théologie protestante, nous sommes bien obligés de constater que les gens qui nous entourent, tant croyants qu'incroyants, ne sont pas du tout comme Luther et ses contemporains, obsédés par la peur de l'enfer. L'expérience de Luther n'est plus la leur. Que devient le discours sur la grâce dans des contextes aussi différents, même si nous constatons encore que dans certaines religions, beaucoup de croyants agissent pour obtenir un salut et une récompense de Dieu. Je pense qu'on parle beaucoup trop du salut dans nos cultes, comme si nos contemporains étaient préoccupés par cette question. Et comme je l'ai dit parfois, les prédicateurs ont le génie de répondre très bien à des questions que les gens ne se posent pas. D'ailleurs, la question du salut, pour les protestants en tout cas, est réglée une fois pour toutes. n'en parlons plus. On a l'impression que sans cesse, il faut persuader les gens qui nous entourent qu'ils sont des malades qui s'ignorent, d'épouvantables pécheurs, qu'ils sont voués à la perdition et à la condamnation du feu éternel. Et quand, avec beaucoup de peine, on est arrivé à les persuader de cela, alors on arrive en leur disant « Mais on a la potion magique !» C'est Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce, c'est le pardon. Comme s'il n'y avait pour nos contemporains qu'un choix entre le désespoir ou Jésus. Et Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand résistant, protestant, qui, vous le savez, parce qu'il a participé à un complot contre Hitler, s'est retrouvé dans un camp de concentration où il a été pendu quelques jours avant la libération de ce camp. Dietrich Bonhoeffer a écrit des lettres de prison et dans l'une d'entre elles, il dit avec un certain humour ceci. Si on ne parvient pas à amener l'homme à considérer son bonheur comme un malheur, sa santé comme une maladie, sa force vitale comme le désespoir, alors les théologiens sont au bout de leurs ressources. Ils se trouvent devant un pécheur endurci, de nature particulièrement méchante, ou alors devant une existence bourgeoisement saturée, l'un est aussi loin du salut que l'autre. Hélas, il y a beaucoup trop de paroles culpabilisantes venues des plus hauts niveaux dans nos églises, au point que le message de la grâce, qui devrait être libérateur, est noyé dans une série de dénonciations, de condamnations, d'interdits. Il faut faire ceci et ne pas faire ceci. Le message des églises est trop souvent encore aujourd'hui perçu comme un message écrasant, traumatisant, décourageant, moralisateur. Nous disons pourtant, et c'est cela la grâce, accepter d'être accepté, même si on se sent inacceptable. Alors pour nous aujourd'hui, avec la proclamation de ce sola gratia par la grâce seule, la réforme au XVIe siècle a fait entendre un message immensément libérateur. Et c'est à cela qu'il faut être fidèle. Faire entendre aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, un message libérateur pour nos contemporains, c'est être fidèle à ce message-là du XVIe siècle. Et si le mot « salut » ne parle plus vraiment peut-être à certains, n'est-il pas possible précisément de le remplacer par celui de « libération » On a même parlé d'une théologie de la « libération ». Sur le plan spirituel, théologique, social, politique. Je sais bien que le mot « libération » et le mot « salut » ne se recouvrent pas exactement. Mais dans une méthode de corrélation, il faut parfois partir d'une certaine notion pour être entendu et compris, au lieu de partir de quelque chose qui n'est pas nécessairement accueilli. Pensez toujours à mon péché, à mon salut, à mes fautes, à ma confession du péché. C'est être centré sur moi, dans une attitude narcissique et égocentrique, alors que je suis libéré de cette obsession. Je suis libéré de mon moi quand ce moi constitue une prison. C'est-à-dire je suis possédé par l'Esprit de Dieu qui est un esprit d'amour qui m'oriente vers les autres. Je suis libéré de la peur de ne pas être à la hauteur. de devoir toujours en faire plus pour faire plaisir à Dieu. Nous sommes acceptés tels que nous sommes parce que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Ici, dans les églises, dans nos temples, dans le christianisme, on ne nous demande pas, comme dans la société, de faire nos preuves à chaque instant et d'être jugés au mérite. Je suis libéré parce que Jésus me rencontre, m'accueille, m'encourage, me redresse. Comme le paralytique, comme le pestiféré, comme l'estropié, comme l'aveugle. Et il me dit « marche !» Comme il l'a dit au paralytique « marche !» Je suis libéré pour la vie. Je suis libéré parce que aucun message ne peut me dévaloriser. En Jésus, la dignité humaine est totalement retrouvée, restaurée pour chacun de nous. C'est une dignité qui est une égale dignité parce que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et partout où un message, surtout quand il vient des églises, me rabaisse ou me réduit au néant de ma condition mortelle et pécheresse, il y a un message infidèle à ce sola gratia. J'aimerais, pour conclure, vous relire un verset de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 11, qui rejoint d'ailleurs une affirmation que l'on trouve dans l'Épître aux Galates, qui, comme celle aux Romains, a tellement marqué Luther. Ainsi, dit ce verset, il n'y a pas des non-juifs et des juifs, des circoncis et des incirconcis, des non-civilisés, des primitifs, des esclaves ou des hommes libres, mais le Christ est tout et il est en tous. Oui, Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Amen.